Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Et nous revoici donc ensemble ce soir dans nos lectures en liberté pour la dernière partie du roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. Le temps est un accomplissement. Le présent se dévide. Le futur n'est presque rien. 30 secondes, peut-être. C'est bien possible. Nous sommes sans défense. Un lapin est passé en courant. Il a sauté la saignée d'un chemin ouvert sur la nuit, comme un album éclairé par la lune. Aux alentours immédiats de la ferme, les 30 cavaliers viennent de faire halte. Leurs chevaux, rendus ardents par la poussaille de la course, corcobient sur place. Les hommes eux-mêmes sont excités comme des chaudières. Ils sont effrayants et lâches à la fois, tous dévoreurs d'entrailles, assassins de nègres et d'enfants, possédés par des desseins instables. Les naseaux de leurs bronches exhalent un souffle enflammé. Le tressaillement incessant des étalons, leur paturon énervé, l'onde agitée de leurs robes baies communique à ceux qui les montent une impatience étrange. Les rendent tributaires d'un élan sans cesse contrarié par le feu des éperons, par la morsure des brides. C'est un peu comme si tout raisonnement, serait-ce la parole la plus furtive, s'était éteint dans la cervelle de ces revengeurs d'occasion. Pressés de donner une claquée à tout ce monde qui s'amuse sans eux, ils creusent une fosse pour combler leur haine de margoteau. De leurs yeux de coyote apeurés, ils cherchent, fût-elle souillée, la consolation d'un regard. Le sceau apposé par un chef, un cri, un geste, un ordre fruste, quelque chose comme un signal qui les délivrerait en une fois de leur crainte et justifierait leur barbarie comme une nécessité impérieuse. Bien sûr, ils tiennent la mort pour ami. Ils ont besoin du sang mêlé à la boue. Mais ils ne sont sûrs de rien. Même leur cruauté tient à un fil. Ils y rêvent à moitié, fantômes gris, dissimulés dans l'ombre. Les chevaux renaclent sur place et l'accordéon balle couvre le piétinement des fers. Dans l'habitation Raquin, où il se trouve maintenant à écouter les sornettes à Monsieur Vaguepac, des histoires de cigognes, farouche ferraille Crowley a levé la tête. Il lui a semblé entendre un mauvais sérail, peut-être un martèlement. Mais la porte s'est ouverte et refermée aussitôt. C'est Basel qui vient d'entrer dans la pièce. Elle est d'une pâleur extrême. Farouche ferraille la dévisage. Dehors, encore, il perçoit comme un lointain remue-ménage. Sur ses pieds nus, Basel a fait le tour de la salle en glissant. Elle a une tournure de jeune fille. Elle passe la main devant les yeux inquisiteurs du grand farouche. Elle ébouriffe avec une mansuétude inquiète les mèches sombres qui encombrent le devant de son front têtu. Tant pis pour Vakpak, pour la femme Israël qui sont autour de la table et écouteront ses paroles, elle va. Elle met son visage contre celui de ferraille. Écoutez, monsieur le gendre italien, je sais qui vous êtes. Vous êtes l'engeance du péché et la race du mensonge, ni deuxième cousin, ni issu de Germain. J'ai compris. Vous aimiez sincèrement ma petite fille. Et réciproquement, Azéline, vous chérie, claire et tendre, alors la seule chose que je vous demande, si la colère de Dieu siffle aux quatre coins de la terre et vous rattrape ici, jurez-moi. Vous ferez tout pour épargner sa vie. Vous prendrez vos grands pistoles et vous virerez votre bord, Mr. Crowley. Elle le tient dans ses yeux. Elle s'est mise à parler par le nanglais. Jamais une chose pareille lui est arrivée. She said, I don't like men. I hate their guts. Ses yeux sont fixes et endurcis. Basel est d'un autre monde. Elle répète entre ses dents, You bastard, you swear goodwill, leave my daughter alone. Crowley lève sa grande main sur son cœur. I promise, he says. Si le temps tourne mal, je saute à cheval, je pars à l'autre pays. Ici, never return. Basel refroidit ses yeux et ses mâchoires serrées. Elle lui sourit bizarrement. Elle a confiance. Elle lui caresse la tête comme une bénédiction. Sans un mot ajouté, elle part se mettre au calme dans la froideur de sa chambre. Là-bas, elle ouvre l'armoire. Pour la première fois depuis longtemps, elle contemple l'effet que la robe rouge offerte par Oakley Dodds fait sur sa peau. Elle s'encense derrière les oreilles avec le parfum de chèvrefeuille. Elle pique la broche en émeraude à l'échancrure de son décolleté. Elle se dit, c'est comme ça, j'aurais pu être une grande belle femme, haute comme un cibe de pain. Elle se jette sur son lit et pleure pour en vouloir un peu à quelqu'un de responsable. Elle repense qu'avec Farouche Ferraille Crowley, l'affaire est close. Jamais ces deux-là se sont revus. Dans le centre de sa grande lunette télescopique de marine, Palestine Northwood surveille la racaille. Le grand revenu des océans est le seul à se rendre compte que déjà personne n'est plus maître du vent, ne peut le retenir. L'imminence de la tempête fait battre son cœur. Il ne quitte pas du regard le moindre geste des cavaliers. Il épie la tension de leurs mains crispées sur les brides, la pression du mort tuméfiant la bouche des chevaux. Convaincu qu'on s'élance au devant d'un tuage que d'ici peu la destinée d'une douzaine d'hommes, de femmes et de jolis enfants, choisis au hasard de la foule, basculera injustement vers le néant, il garde plus particulièrement son attention fixée sur deux visages à l'ossature grossie par la lunette. Un, c'est celui du shérif Ben Guinée avec ses moustaches de dompteur de lion. L'autre, celui de ce sacré garçon un peu bègue, à qui le vieux bougre raquin a foutu deux, trois claquets et une bonne ramasse sur la face de Ravet le jour qu'il était tiac au salon chez Achille. Palestine fait sérieux son ouvrage de guetteur. Il a passé une paire de mitaines pour réchauffer ses mains. Sans cesse, il revient aux deux hommes. Il s'apesantit sur l'étrange de leurs pommettes enfiévrées, sur les sursauts de leurs montures dansant entre grisaille et lumière. Si le curé Toby Lefort l'interroge sur ce qu'il distingue à travers sa longue vue dorée, le marin se détourne à peine. Entre ses dents, c'est plutôt lui qui poserait des questions. Une fois, il demande comme ça à Lefort. « Le bon Dieu est tout partout, père ?»«
Mais certainement, mon enfant. »
Toby Lefort épelle les grains de son rosaire. Il sanctifie le nom du Seigneur, il est son vicaire. « Vous êtes bien sûr ? Il est Dieu tout partout ?»
Encore un grain pour le prêtre, encore un pater pour le Tout-Puissant. Le curé ne donnera pas prise à la doutance. C'est sa foi. Il marque sa route. Il dresse ses jalons. Il met en place des bornes. Dieu est au paradis. Sur la terre, dans l'église, sur la rue, il est partout.
Alors, père, si ça vous est possible de prendre un raccourci, n'hésitez pas, vite, galopez jusqu'au ciel. Dites à lui d'en haut de surtout pas oublier la petite maison qui nous fait face. Je la vois déjà comme si elle était pleine d'agneaux à égorger.
Le curé Lefort a s'arrêté de prier. Il a regardé le grand marin froid, il a murmuré
« Dieu bon, il faut arrêter ça !»
Il a touché de sa main vivante le visage maigre de Palestine Northwood et il a dit d'une voix gentille
« Va, je sais bien qui vous êtes.
J'ai grand peur de glacer en restant à vos côtés.
Mais tant pis, prenez tout ce que je possède qui est ma misérable vie et venez en aide à tous ces malheureux. »
Palestine Northwood a dévisagé le vieux homme. Ses yeux dormants se sont baignés d'un lit de larmes et il a dit « La vieillesse est votre honneur, mais vous n'avez pas grand-chose à m'offrir, Toby Lefort. » Il a haussé les épaules, il a craché par terre. Et puis cette fois c'est fait. Mamselle Grandois ferme les yeux. Les femmes ont crié. Ils sont entrés dans la cour.
Yeah, yeah, au galop, partout la poussière. La pouillasse a surgi du noir. La ronde des cavaliers a dominé l'estrade.
Au début, le gros MacLeish, son acolyte, le violonnier Alfred Immel, ont cru à un de ces charivaris comme il s'en produit en certaines occasions. Avec l'archet, la boîte d'air et le frottement des tifères, ils ont continué à maintenir une musique ferme et excitante. Ils donnaient le beat, ils lâchaient des cris en jouant. Le bal d'accordéon-violon battait son plein. Personne n'avait compris à cette heure que les choses allaient tourner mal. Follement, sans se rendre compte de la menace qui les exposait, les gens de la noce continuaient à rire, à respirer, à aimer le goût des viandes et à toucher la peau de leurs amis.
Early one day's morning, I came upon a fine young horse. I mounted up and led him onward. He was grey as the sky. As the sky above, as the sky above. I slept down by the river, and what a sad dream I had. I'm afraid, my love, it must be true. Today I will go and leave you. Today I will be gone. I woke and was surrounded. Nine of the law stood before me, asking me my name and business, demanding proof of me, demanding proof of me. Thank you. gone from me. Would you have me your prisoner? No, but you must give us that horse. You must give us that wrong gray horse. Listen, he ain't for sale. Never for the law to ride. If that should happen, none would be safe. Even the birds would be afraid to fly. So they asked again, what was my name? They asked again, what was my name? Two were dead before they could move. Two were dead before they could move. That's my name. That's my name, if you please. That's my name. That's my name, if you please.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Suite et fin du roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. Voici Smith a apparu dans le cercle de la lumière. Quand il a été bicablant, l'ancien prétendu d'Azeline s'est avancé vers la buvette. Personne ne l'y avait invité. Il a fait un signe désinvolte à l'intention de Popraquin qui venait de rouvrir un œil. Le gros de la troupe des cavaliers se tenait dans l'ombre. Ils attendaient, à Cadillac, un signe pour mettre pied à terre. Leurs étalons boletaient. Plus loin, dans l'ombre d'un portail, Edius avait repéré tout de suite la stature menaçante d'un autre foutu pion conque. Un danger, celui-là. Zaquet la verdure de la clique des gros genoux. Le tueur de nom Crozémon était déjà sauté de son choual. Il avait pas l'air dans son état normal. Sous les soies drues de ses sourcils, ses yeux de goret étaient beaucoup rapprochés. Élégante dans son soute, un habit noir sur une chemise à fleurs, voici portait une ceinture d'armes en travers de ses hanches. Le doud s'asservit une rasade d'eau-de-vie de maison sans qu'on les lui ait proposée. Il a dit en toisant Raquin, « Pas besoin de parler le nanglais, vieux, pour s'apercevoir que tu m'as pas gardé la fille. » Au saut, il a sifflé son verre et porté son regard arrogant sur la jeune mariée. Il n'avait pas bégayé, pour une fois. Puis, sans demander la permission, ni rien à personne, il a pris la jeune captive par la taille contre lui, bien serrée, et l'a entraînée dans la danse. « Tu te rappelles, petite catin ?» Il lui soufflait dans la gorge. « C'est moi ? Je suis ton prétendu number one ?» Avec une grande faim, il tenait ses lèvres pressées contre celles d'Azeline. Comme il découvrait personne dans les yeux de la fille, pas le moindre signe de son existence, il s'énervait. Il avait déjà beaucoup bu. Chaque fois qu'il se reculait, il posait son regard sur ses seins. Et il déparlait, il disait « Fais donc pas semblant de rêver comme une aveugle. Je me souviens, va, je me souviens. À 12 ans, je t'ai embrassé, je t'ai montré ma verge. Ce jour-là, t'étais morte au croupion. » Il giguait le step sur le parquet et relançait la cadence comme si le diable avait été son moteur. Imel, le violonnier, avait peine à suivre. Les doigts de MacLeish, on voyait plus passer sur les touches, l'accordéon s'emballait, les notes aiguës prenaient l'estampique. Pop Rackins a avancé au-devant de Voici Smith. Il sentait bien que le drôle et ses marais bouleurs étaient venus pour casser la fête. Prendre le bal à eux, éteindre les lumières et après tracasser les femmes une à une, la main sur les côtes, comme ils voudraient. C'est ça, ils ont dit entre eux. Le vieux Boug a d'abord essayé la persuasion. Il a tapoté l'épaule du méchant jaloux pour essayer de le calmer. Il a dit, comme s'il tenait pas compte de son agissement de butor, « Comment les affaires là-bas, voici ? Ton emploi à la Nouvelle-Orléans, la banque. Comment elle va ?
Oh, assez bien, monsieur Rackin.
Tout est correct, hein, voici.
Ouais, mais oui.
Vous aussi, je pense, tout est correct, excepté votre fille. »
Pop Rackin a tout de suite remarqué que le grand élingué était plus bègue. Plus il penchait vers la violence, plus ses mots devenaient nets. Et puis, quand bien même il dansait, serré à Zeline comme un paquet lui appartenant, le vieux sentait son regard chafouin guetter la traînaille, la basse classe aux ordres de Zaquet la Verdure. Des gens qui n'avaient pas de contrôle. Les plus dangereux d'un échantillon de maudits prêts à tout tuage. Médius a retourné Bac pour joindre Zaquet. Le malfacteur attendait le vieux bougre avec un sourire de provocation. Il l'a hélé comme ça en pointant derrière lui ses roclores, ses vauriens, ses bonarés, tous reconnaissables à leur haut chapeau noir et à leur foulard rouge. « Rien à boire pour mes amis ? Oh, j'ai pas la respection que j'expectais. Ou alors t'es pas heureux d'avoir de monne ? Edius, tu me traites comme un poil là ?»
Pop Rackin s'est contenté de la regarder comme un gros chevreuil. Il éventait bien le projet du maudit Bully, sa façon qu'il avait de chercher la moindre chance ou occasion de faire prendre une chicane en vraie bataille. C'était des temps, ça aimait se battre. Le vieux Cocodri a commencé par lui opposer un sourire avec toutes ses dents, puis après, en douce, les a retirés, les a glissés dans sa poche, vu qu'il aurait pas parié pour un bit sur une fin de soirée tranquille. Voici continuait à danser comme Mad avec Caseline. Il la serrait dans sa transpiration. Il était échauffé. Il avait un troupeau de bisons qui grouillait au long de sa racine. Dans le fond, Edius a plaisanté Zaquet. « Tout à coup, tu ne connais sûrement pas quoi décider quand le lit n'est pas encore fait. »«
Ah non, » a répondu Edius, « ça, je connais pas. »«
Dans ce cas, tu pourrais peut-être rappeler le marié à la rescousse de sa malheureuse femme, qu'il la laisse partager sa chaleur avec Voici, sinon, encore une valse, la petite Cotin pourrait plus respirer. »
Avec ses moqueries, le vieux se sentait trappe comme au fond d'une savane. Il a dit quand même, « Moon, si je suis surembêté, c'est que mon gendre est parti. Sans ça, les chauds, j'aurais pas cette odeur de cochon avec des culottes en bas. »
Ah, mais, dit Zaquet, si tu penses ta fille est ennuyée injustement, harassée par un homme contre son gré, t'as moyen de te retourner. La loi est dans ton camp. Tu peux mettre une charge contre nous après du shérif Ben Guinée. »
En continuissant à écharlanter de la sorte, le mauvais bouleur a désigné le marshal et ses députés. Tout le gang de la police était en train de prendre position autour de l'habitation. Les polices avaient poigné leurs armes. Edius a mesuré que Farouche avait aucune chance de sortir vivant de cette chaudière. Maintenant, le vieux aurait donné son chapeau à brûler que Voici Smith était venu espionner les parages, que, par chance, il avait tombé arrière le bandit Crowley, qu'il l'avait peut-être même pisté jusqu'à un rendez-vous avec Aseline, que le goglu était sûrement resté rincer ses yeux derrière une talle des ronces, qu'il avait été témoin de la manière ces deux-là buvaient le paradis jusqu'à la tombée du serin. Avait une manière personnelle de verser l'eau de pluie dans la tonne, de s'éclaircir le teint, les taches de rousseur, et de commencer les enfants. Qu'il avait jugé son amour avec la belle pillée, et que par pure jalouserie, déconduit, pauvre foule d'amour, il avait couru dénoncer Farouche à la battelée des mauvais garniments. Zaquet la Verdure, en voyant caler le chéti à Bitaco,
considérant qu'il était pâle, mal en position, a recommencé à picocher après lui. « Tiens, mais il a fait. J'ai l'impression que mon vieil ami Edius a gombou tout dîné de travers aujourd'hui. Nous autres qui croyaient ça va être une sacrée partie à l'habitation Raquin, eh ben non, tout le contraire. Mon constate qu'Issit se trouverait plutôt que des vilains tristes. »
« C'est possible, Zaquet. Mais veille donc à pas les transformer en vilains fâchés. »
« Il y a pire que ce que tu dis, Edius, et je te conseille pas d'essayer de nous rencontrer sur ce terrain, sinon on pourrait bien devenir des vilains vilains. »«
Moon, un vilain enragé, je pourrais faire !» dit le vieux bougre. Il avait peur d'Arien.
Pour se donner encore plus de nerfs, il s'applantait au ras d'une indien Jody Mark Brown qui se trouvait à ses côtés.
« Faut pas bêtiser avec les attacapates. » Quand ils se fâchent, ça prend une foule pour les arrêter.
Pour montrer qu'il ne se laissait pas si tellement impressionner par un chauvache, Zaquet la Verdure a fait signe à deux de ses hommes. Les ingrands djinns ont aussitôt empoigné la dinde à Hermogène Fusilier, une fille labauve, et hop, les mains posées fermes sur le tchu des bossettes, ils sont partis à danser aussi fort avec elle que voici avec Aseline.
Par soudain dégoût d'existence, le vieux bougre Edius s'est senti crochir à vue d'œil, impossible de se refaire. Il s'est demandé, bon Dieu, quelle longueur de pas en plus il lui faudrait franchir. Cette fois, il se sentait tomber faible.
Une pleine envie de vomir a escoué toutes ses tripes. Il a rendu son garmanger.
« T'es un rat, Zaquet !» Il a tout de même gueulé entre deux vomissements effroyables. Il pouvait plus. Il avait la respire court, reniflait sa morve, râlait à quatre pattes, donnait tout à la terre, ses poumons, sa lessive d'estomac, des flots d'anciennes gâteries, gibier, ragoût liquide, c'était atroce pour lui. Régurgitanta en hoquet, même de la viande franchement charogne, il récréachait des brisures par convulsion, il se recroquevillait.
Ce qu'il avait aimé le plus lui ressortait sous une forme avilie de la boyauderie, de la gargane, même du nez. Il essuyait ses doigts sur l'herbe avec un discours égaré.
Les autres se fendaient la gueule, s'esclaffaient. « Tu parles, il était beau le dîneur !»
Il a fini par renvoyer tout, restait que la bile, du fondant, du glué, de l'humide.
Il était épuisé, mais il n'était pas mouru.
« T'es un cochon !» il misérait dans son glaire. Il montrait son poing après la Verdure. Il clamait à hurle-gueule « T'es qu'un héron, Zaquet ! Un mauvais taillot, oreille basse, un chaoui des basses classes, une viande de mulet !»«
Viande de mulet ? J'entends all right ?»«
Ouais, viande de mulet brûlée. Y a pas de nom pour dire quel salaud tu représentes !»«
Fou couillon ! Ça, si c'est pas une insulte et une attaque !»
Des mots pareils, c'était mortel.
Maintenant, dans la lunette de Palestine Northwood, c'était clair. Les hommes étaient partis pour s'argumenter. Les premiers coups de poing sont partis à valser dans les œils. Après sont venus les coups de pied. C'est personne qui a sorti son revolver, mais ça a fini par 12 fusils.
Et maintenant, surgi de nulle part, lancé par un félon, le fils Babino a pris un couteau dans son œil. Un gosse, 6 ans à peine, a hurlé de rire. Et les premières balles ont passé. Un grand tuage d'hommes a commencé.
Voilà, nous avons terminé donc dans nos lectures en liberté une partie de ce grand roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu, que vous pourrez vous-même terminer en lisant la suite. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Je vous dis bonsoir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre lecture.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.